7h, 9h, plus près de toi.
Nova.
L'éveil de la nature.
L'éveil de la nature.
Bonjour à tous. Alors moi, j'étais rentré chez moi et je me suis bien promené. J'ai marché le long de la plage, j'ai été au bord du lac, je rentrais par les petits sentiers. Ça sentait bon en ce moment, ça sent bon, ça sent la fougère, ça sent la résine, au milieu des pins, des chênes. C'était vraiment très bien. Quand le soleil se lève le matin, c'est super beau. Ça fait un petit rayon au-dessus de l'eau et ça met de bonne ambiance pour toute la journée. Et le soir, quand il se couche, eh bien, on n'a plus qu'à aller se reposer tranquillement. Merci pour tout, à très bientôt.
On n'avait pas dit qu'on faisait un jeu, non?
Non, on a dit que c'était l'éveil des infos.
On devait faire un jeu avant, non?
Mais tu voulais faire gagner quoi?
Je sais pas. Tu sais d'habitude de ce qu'on fait gagner, quoi.
Ouais, c'est pas grand-chose, quoi.
Ben rien,
ah,
oui.
Tout. Ah, rien du tout, c'était ça, c'est pour ça.
Mieux que rien, les infos, tu as réparé.
Le chômage, bonjour les amis. Le chômage a fortement augmenté au mois de mars, une hausse de 1,3% des demandeurs d'emploi inscrits en catégorie A, c'est-à-dire sans aucune activité. Alors ça représente 43 900 personnes sans emploi de plus, c'est la plus forte hausse enregistrée depuis septembre 2013. Et c'est dans ce contexte que l'on apprend le placement en liquidation judiciaire de l'enseigne d'habillement MIM. 800 emplois vont être supprimés. Son meeting à Arras hier soir donne peut-être le véritable coup d'envoi de sa campagne de l'entre-deux-tours. Emmanuel Macron a notamment déclaré « Je ne laisserai pas un centimètre de terrain à Marine Le Pen ». Ce meeting d'Arras est venu clore une journée pourtant bien particulière dans la campagne. Alors qu'Emmanuel Macron avait l'intention de marquer un point en se rendant en terre frontiste, d'abord dans la Somme et puis dans le Pas-de-Calais, le candidat du mouvement En Marche a été pris à son propre jeu. Tout a commencé en fin de matinée, égratigné pour son excès de triomphalisme. Soucieux de relancer sa campagne de l'entre-deux-tours, le candidat était de retour sur le terrain. Il avait rendez-vous à la Chambre de commerce et d'industrie d'Amiens avec des représentants syndicaux de l'usine Whirlpool, le géant américain de l'électroménager, pourtant bénéficiaire, qui a annoncé la fermeture de son usine d'Amiens l'an prochain, où travaillent 286 salariés pour transférer la production en Pologne. Seulement voilà, au même moment, et à la surprise générale, Marine Le Pen arrivait, elle, à l'usine Whirlpool pour une rencontre avec les salariés sur le parking du site, à base de selfies. Emmanuel Macron, qui n'avait pas prévu de se rendre sur le site, a changé d'avis, est allé sur place ensuite directement au contact des salariés. Environ 500 personnes ont manifesté hier soir à Rennes contre les idées du Front National et pour dire non à Marine Le Pen. Il va y avoir de nouveaux rassemblements aujourd'hui un petit peu partout en France à l'initiative des lycéens et notamment un rassemblement Place de la République à Paris. L'ancien secrétaire d'État Pierre Lelouch se retire de la vie politique et il rend sa carte du mouvement Les Républicains, jugeant la campagne présidentielle de son camp épouvantable. Plusieurs milliers de policiers ont défilé entre Montparnasse et les Champs-Élysées à Paris hier pour réclamer de meilleures conditions de travail. Les Champs-Élysées où le policier Xavier Jugelet a été abattu jeudi dernier. Les pays membres de l'Union européenne ont accordé une protection à quelque 710 400 demandeurs d'asile l'an dernier, dont plus de la moitié étaient syriens. Le plus grand nombre de demandeurs d'asile a été enregistré en Allemagne, qui est aussi de loin le pays où le plus de demandes ont été déposées. Suivent ensuite, loin derrière, la Suède, l'Italie et la France, avec un peu plus de 35 000 arrivées. Et l'on reparle de l'attaque chimique du 4 avril dernier en Syrie. Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Marc Ayrault, en est désormais persuadé. Après enquête des services de renseignement français, c'est bien le régime syrien qui serait à l'origine du carnage. Jean-Marc Ayrault qui a notamment indiqué que le procédé de fabrication du sarin, du gaz sarin, prélevé sur les lieux de l'attaque, était typique de la méthode développée par les laboratoires syriens. La purge qui se poursuit en Turquie, la police du pays a annoncé la suspension de plus de 9000 agents accusés de lien avec le prédicateur islamiste exilé aux États-Unis Fethullah Gulen. Le président Erdogan tient Gulen pour responsable du putsch raté du 15 juillet dernier. Ankara a aussi annoncé l'arrestation de plus d'un millier de partisans présumés du prédicateur. Si l'on en croit le Wall Street Journal, Donald Trump pourrait décider de quitter le traité de libre-échange nord-américain ALENA qui réunit les États-Unis, le Canada et le Mexique. Le littoral de Bretagne qui enregistre le pire début de saison des marées vertes depuis 2009 avec des échouages massifs et extrêmement précoces. Il s'agit d'une mauvaise nouvelle évidemment pour le littoral breton alors que la tendance moyenne était plutôt à la baisse depuis 2010. Chaque année ce sont entre 30 000 et 70 000 tonnes que les collectivités locales de la région font ramasser sur leurs plages. Je vous laisse imaginer le coût de ces opérations. Le silence des agneaux, Palme d'or à Cannes en 92, c'était lui. Philadelphia, c'était lui aussi. Le réalisateur américain Jonathan Demme est décédé à New York des suites d'un cancer. Il avait 73 ans. Et puis, sachez pour finir que le Paris Saint-Germain rejoint Angers en finale de la Coupe de France de football. Les Parisiens ont écrasé hier soir au Parc des Princes les Monégasques 5-0.
C'est une triste nouvelle, Jonathan Demme.
Bah oui, vous avez fait des grands yeux, Atman.
Oui, des grands yeux, parce que d'abord, il n'a pas eu de Palme d'Or, il a eu des Oscars, surtout Anthony Hopkins.
Pour, il n'a pas eu la Palme d'Or
Non, okay. Il n'a pas eu la Palme d'Or. Et Pat Lera, qui nous fait la météo, il a été son assistant longtemps en France pour s'occuper de tout ce qui était ensemblier, trouver des décors, tout ça.
Oui, il a fait des films en France.
Beaucoup en France, ouais, Jonathan Demme. Et je ne savais pas qu'il était mort sans 13 ans.
Voilà. Et surtout, il a fait un très grand film, Stop Making Sense, qui est peut-être le plus grand film sur le rock qui a jamais été fait, qui était la captation des Talking Heads.
Ok.
Voilà, magnifique. Belle intervention, Bernard Zécry, qui est encore plus au courant.
Qui reste là.
Sur Jonathan Demme que nous tous.
Qui reste en embuscade juste autour de cette table des.
Good evening, Clarisse, comme disait Anthony Hopkins.
Plus près de toi, ça continue juste après la pub avec le tour de table des connoisseurs de l'actu et la suite du feuilleton du tableau volé.
7h-9h, plus près de toi.
7h-9h, Edouard Baer.
Plus près de toi.
Plus près de toi.
Ils ont la niaque, ces jeunes.
Oui, tout à fait.
Sur Nova, les Talking Heads avec This Must Be The Place. On en parlait juste avant la pub, car on a appris la disparition du réalisateur Jonathan Demme, qui avait réalisé ce film mythique sur les Talking Heads au début des années 80. Stop Making Sense. Thomas.
Oui, 7h11, c'est plus près de toi, c'est Radio Nova, et c'est l'heure des connoisseurs de l'actualité.
Club des connoisseurs. Yes.
Oui, c'est un club, c'est un clan.
Des gens qui font des pieux d'actualité mieux que les autres. Voilà, c'est une famille, malade, heureusement.
Non, parce que.
Moi, je fais quoi? Je fais la mère ou le père?
Il faut qu'on distribue les cartes.
D'accord. Okay.
Non, mais comme on s'est réveillé un quart d'heure ou 20 minutes avant vous, chers éditeurs, on a pu lire quelques informations ici et là. Atman, une histoire de robot, non, c'est ça?
Oui, un petit mariage atypique qui a eu lieu en Chine. Un mariage entre un informaticien en robotique et un robot de sa fabrication.
Ah oui, donc il s'est fabriqué
sa femme, voilà, ouais. Tout simplement. Et parce qu'il faut savoir qu'en Chine, il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes. Et le type travaillait tellement qu'il n'avait pas le temps de rencontrer quelqu'un. Donc il a fabriqué son propre robot. Mm-hmm. Le petit plus pour lui, c'est qu'il va pouvoir l'améliorer. Parce que pour le moment, elle déchiffre des signes. Elle parle un tout petit peu, mais il va pouvoir la faire marcher, la faire plus parler, la faire danser peut-être, et même, il dit, lui faire des tâches ménagères. Voilà.
Donc on comprend donc que ce n'est pas par la robotique que l'avancée, l'égalité des sexes arrivera.
Non, là, n'avancera. Par contre, on se fout un petit peu de sa gueule sur les réseaux sociaux, parce que des gens disent que plus il va la rendre belle, mm-hmm. plus lui, il va vieillir. Voilà, mm-hmm. c'est le pigme à lion qui va laisser partir. Alors au mariage, comme témoin, il y avait un four à micro-ondes et un grille-pain. Voilà.
Oui. C'est
juste ça.
Il y a quand même cette grande entrepreneuse de la Silicon Valley qui, elle travaille sur l'immortalité depuis des années et elle a créé un robot de sa femme qui est encore vivante, mais pour quand elle sera morte. Et comme c'est un grand spécialiste alors c'était un homme, c'est devenu une femme, c'est pour ça que je me mélange un peu, de l'intelligence artificielle, il est en train d'en créer un robot assez hallucinant. Il y a une vidéo sur le New York Times assez folle. Sa femme s'appelle Mina, elle trouve ça très bien.
La mienne s'appelle Ying Ying, il faut le dire.
Merci.
Alors, donc d'une anecdote, Atman, on se rend compte avec l'information de Marie Missé qu'il y a une véritable tendance de fond et qu'on continuera d'en parler régulièrement à peu près toutes les 20 minutes dans cette émission.
Voilà, c'est ça, sur
des nouveaux exemples. Marie, il y a une autre histoire de robot, non?
Oui, pour rester en Californie, c'était un article dans Les Échos hier qui disait que les seuls qui ont voté pour Trump en Californie, qui a quand même voté massivement pour Clinton, c'est les agriculteurs. Or, ils font appel à une grosse main-d'œuvre immigrée, les agriculteurs en Californie, parce qu'ils sont moins chers, évidemment, et puis surtout, ils en ont vraiment besoin. Or, ces gens d'origine mexicaine, du Honduras, etc., sont partis en masse des champs californiens, et donc, il n'y a plus personne pour faire la récolte. Il y a un vrai problème de récolte en Californie, et ils se retrouvent donc complètement gros gens comme devant. C'est l'occasion d'utiliser cette expression avec leur vote Trump.
Très, très belle expression.
Et alors, du coup, ils font appel à la Silicon Valley pour avoir de la robotique qui serait vraiment utile dans les champs. Le problème, c'est que le rythme de la Silicon Valley n'est pas du tout le rythme des agriculteurs. Et donc,
c'est-à-dire que les robots vont plus vite que les récoltes?
C'est-à-dire que, par exemple, pour lancer une application, tu as besoin d'un retour sur investissement assez direct. Mm-hmm. Or, il faut attendre un an, deux ans, les résultats dans les champs. Bref, voilà. Donc, ils se sont battus avec Trump contre les immigrés et contre la robotisation du monde, et ils se retrouvent vraiment...
Ils vont rapatrier des Mexicains qui vont payer plus cher. Voilà.
Oui, on comprend que les microprocesseurs ne se mettent pas en jachère. Vous parlez d'oiseaux, Tito ?
Oui, ouais, parce que c'est le retour des petits oiseaux migrateurs. Alors, vous pouvez les identifier. Il faut aller sur les oiseaux de jardin et les parcs de printemps en été. Vous trouverez des petites photos sur Internet avec des petits chants enregistrés. Alors, sont arrivés déjà les petits virtuoses qui chantent depuis les postes dégagés, tels la senteur mouchée ou le rouge-gorge. Aussi le merle qui est déjà là, les étourneaux, l'hippolaïs polygote. Des petits oiseaux verdâtres remuants comme le pouillot véloce, le roi telé huppé et bien sûr les mésanges.
Ce sont des vrais oiseaux, Tito.
Ce sont des vrais oiseaux, c'est ceux qui sont dans nos petits jardins qu'on entend chanter mais qu'on voit pas. Alors il faut apprendre à les regarder, apprendre à les voir. Mm-hmm. Les fringilles sont les plus faciles à voir. Alors les fringilles, ce sont des passereaux qui mangent les petites graines qu'on leur met au fond des arbres. C'est-à-dire il y a le pinson, il y a le verdier, il y a le serin, il y a le chardonneret. Mm-hmm. Tous ces noms-là, vous les connaissez, mais on connaît pas forcément ces petits oiseaux. Et bien sûr, il y a les oiseaux qui tambourinent, tels le pivert qui tape comme ça partout. Mm-hmm. Et puis nos oiseaux qui sont là toute l'année, tels la tourterelle,
vous,
le pigeon et le coucou.
Le coucou.
Il y a de l'argent dans les poches, il faut toujours avoir un peu d'argent dans les poches quand on entend la première fois chanter le coucou, ça porte bonheur et ça donne de l'argent pour toute l'année.
Vous les reconnaissez à l'œil ?
J'en reconnais pas mal, ouais, bien sûr.
Oui, avec les élections, il y a aussi le retour des corbeaux, je trouve.
Très bien, très très bien. Atmen, vous avez...
Oui, une dernière info citoyenne, un petit peu... Voilà, la petite info citoyenne, c'est, je voulais juste te dire que la rotonde a été fabriquée, enfin, a été conçue...
Vous parlez de la brasserie
parisienne. La brasserie La Rotonde, excusez-moi, mon pardon, j'en perds mes mots, a été conçue par, en 1901... comme étant un bar ouvrier, voilà, un bar ouvrier, où tout d'un coup des gens sont venus, beaucoup de poètes à l'époque, beaucoup d'artistes comme Modigliani, qui n'avait pas un rond, hein, Pablo Picasso, plein de gens, puis après ça a été un cinéma, il y a eu du trafic de cigarettes, c'est une petite brasserie parisienne de tout à fait normale, où on peut boire un coup, moi j'ai bu des coups, le coca était à 5 euros.
Vous touchez combien ?
Non, pas grand-chose, c'est juste dire que c'est une brasserie normale, même s'il y a des velours rouges, c'est pas du tout bling-bling.
C'est une brasserie ouvrière quand même.
Si, ça a été un café ouvrier au départ.
Mais ça l'est plus.
Ça l'est plus, mais je veux dire, au départ, c'était juste pour boire un coup.
Oui, mais maintenant
on peut encore y boire des coups.
C'est pas le Fouquet, c'est ça.
C'est pas le Fouquet, si vous voulez dire, c'est pas bling bling.
5 euros le coca.
Et juste pour dire aux journalistes, à certains journalistes et aux réseaux sociaux, qu'avant de chercher la petite bébête, eh bien, on met en place la grosse. Voilà.
Je sais pas, il devait y avoir une sorte de message politique quelque part, mais j'ai pas compris.
La grosse bébête qui fait peur.
On va proposer à chacun le replay. On avait promis la suite d'un feuilleton qui avait commencé hier. Un feuilleton, celui qu'on a appelé désormais le feuilleton du tableau volé. C'est Philippe Strang qui nous en avait parlé hier. Un tableau volé par les nazis en 1943. Un portrait signé Bartholomeus van der Helst. C'est une période flamande, peinture flamande du XVIIe siècle. Volé par les nazis et mis en vente en Autriche depuis plusieurs années. Mis en vente, retiré de la vente, mis en vente. Il devait être vendu ce tableau à nouveau. Hier à 15h, Philippe Strang est avec nous pour nous dire la suite de ce feuilleton. Allô ? Allô, Philippe ?
Oui, allô.
Alors, ça n'en finit pas, donc ?
Eh bien non, ça a été retiré de la vente. Voilà, il n'y a pas eu d'autres commentaires de la maison de vente, finalement.
Ah bon ?
ils ont décidé de ne pas y retourner. Et c'est à la demande du vendeur, explique la maison de vente. Alors, on peut retirer plusieurs leçons de ce retrait. Enfin, il y a plusieurs enseignements. D'une part, certains des journalistes autrichiens que j'ai eus qui disent « Oui, mais ce qui va se passer, c'est que maintenant, ce tableau va retomber un peu dans l'anonymat, on ne va plus le retrouver, il va s'enterrer, vu qu'il ne va pas pouvoir être mis en vente publique, du coup, et comme sur le plan légal, on ne sait pas, sur le plan juridique, rien n'est réglé, en Autriche, un acheteur, dès qu'il achète via une maison de vente, il est considéré comme un acheteur de bonne foi, donc on ne peut plus le poursuivre, on ne peut pas lui demander de rendre le tableau. » Et de l'autre côté, les héritiers eux disent nous, on est contents. De toute façon, on arrêtera de spéculer, on arrêtera de voir ce tableau arriver sur le marché en attendant qu'il y ait une décision, en fin de compte, qui permette, je pense, moralement, aux héritiers de demander la récupération du tableau sans forcément se retrouver à dealer avec l'acheteur ou avec le vendeur, en l'occurrence, pour une participation. Enfin, il n'y a pas de raison qui finalement... se retrouvent à être mis à contribution une nouvelle fois, alors que ce tableau leur appartient.
Mais alors, vous voulez dire qu'aujourd'hui, les héritiers français, hein, c'était un vol qui a eu lieu en France, en 43, peuvent encore avoir l'espoir de le récupérer malgré tout ?
Mais bien sûr, mais moi je crois. Si vous voulez, sur l'histoire de la collection Schloss, ce qui s'est passé, il y a eu quelque chose en France qui était formidable. Il y a eu un tableau du pasteur Tegularius de Franz Sals, de cette même collection, qui est apparu à la Biennale des Antiquaires en 90. La famille a bougé, a attaqué, mais elle a attaqué pour vol et pour recel. Le recel étant un délit continu, la personne qui l'a, c'est la patate chaude, se retrouve automatiquement condamnée. Donc, dans l'idéal, il faudrait qu'il y ait une enquête qui parte de France, qui se poursuive avec une aide internationale, peut-être en Autriche et qu'on demande l'application de la loi française, et qu'on récupère ce tableau. En attendant, il faudra aller vers ça pour éviter que les tableaux reviennent sans arrêt, repartent et fassent l'objet de négociations entre les vendeurs et les propriétaires.
Sinon, si j'ai 40 000 euros, là, je peux l'acheter, ce tableau. Il paraît qu'il coûte 40 000 euros, à peu près, c'est ça?
Oui, mais
je vais l'acheter et le redonner à la famille.
Il n'est plus en vente, c'est trop tard. Il fallait intervenir
hier soir,
avant 15 heures.
C'est dommage, hein?
C'est dommage, j'étais devant la télé hier. C'est
le mystérie, tout le monde se le repasse, et finalement, voilà.
Ben oui, bon.
Merci Philippe Sang.
On attend qu'il réapparaît, et puis on fait des économies avec Thomas.
Merci Philippe Sang, et donc ça continue encore à faire à suivre. Merci à vous.
Plus près de toi.
Plus près de toi. 7h, 9h, une actualité extrêmement actuelle.
Une petite balade matinale avec la jeune Jamaïcaine de Jamila Falak. À l'instant, c'était All About That. Thomas.
Que se passe-t-il au Venezuela en ce moment et depuis quelques semaines, voire depuis maintenant plusieurs mois? Depuis un mois, en tout cas, il y a eu plusieurs manifestations violentes contre le président vénézuélien, Nicolas Maduro. On dénombre 26 morts, 437 blessés, 1289 personnes arrêtées lors de ces manifestations. Le pays, depuis plusieurs mois, effectivement, est sous l'effet d'une triple crise énergétique. Il faut bien dire que la chute du cours du pétrole a beaucoup pesé. C'est la manne financière du pays qui provoque une crise économique et donc politique. Il y a même des rumeurs de coup d'État par l'opposition. On est en ligne avec l'ancienne présidente d'Amnesty International France, Geneviève Garrigos, qui est aujourd'hui chargée des questions liées aux pays d'Amérique latine, justement au sein d'Amnesty International France. Bonjour Geneviève Garrigos.
Bonjour.
Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui au Venezuela? Quelle est l'issue de la crise, sachant que est-elle visible déjà, et sachant que Amnesty International a rendu public un rapport sur la situation du pays justement hier?
Dans le rapport que nous sortons, justement, nous dénonçons la chose au sortir qui est faite systématiquement aux opposants, aux dissidents par rapport au régime du président Maduro. Comme vous le disiez, cette crise dure depuis un certain temps maintenant. Elle est due, bien sûr, il y a une question énergétique, il y a surtout une question de pénurie alimentaire et de médicaments qui est extrêmement grave et qui entraîne la mort de personnes, notamment par faute de médicaments qui sont essentiels.
Excusez-moi, il paraît que 75% des habitants ont perdu plus de 8 kilos en 2016. J'ai lu ça, c'est possible, ce genre de chiffre?
Quand on parle avec des Vénézuéliens qui sont sur place, ils vous racontent comment le matin, la première question qu'ils se posent, c'est où ils vont trouver à manger et comment ils vont se frayer dans un labyrinthe épouvantable de queues, d'informations pour savoir quand et où, par exemple, ils vont trouver un paquet de riz, des alimentations de base, mais aussi des produits sanitaires de base, du papier hygiénique, du dentifrice, des savons, etc. Donc, c'est vraiment, pour beaucoup de personnes aujourd'hui, elles n'ont pas de quoi manger. Et il en est de même au niveau des médicaments. Et cela a entraîné des manifestations très, très importantes déjà en 2014. Il y avait déjà eu des morts, beaucoup de blessés, 2000 arrestations. Depuis, il y a eu régulièrement des manifestations. L'année dernière, il y en a eu de très nombreuses. C'est souvent des petites manifestations avec des casseroles, des femmes dans les quartiers parce qu'il n'y a pas d'eau, parce qu'elles n'ont pas d'électricité, etc. Et pendant tout ce temps, il y a continué à avoir des arrestations de membres de l'opposition, de politiques, de harcèlement, d'intimidation, de campagne de diffamation pour faire taire l'opposition.
Vous dites que la dissidence est interdite, Geneviève Garrigos, dans ce rapport d'Amnesty International.
Oui, parce que on le voit, toutes les personnes, les leaders des mouvements étudiants, des mouvements de partis politiques, des parlementaires sont arrêtés. On a le cas célèbre de Leopoldo López qui est en prison, qui a été condamné à plus de 13 ans de prison, qui est à l'isolement depuis un an, et pour lequel on n'a rien à lui reprocher. Rien, il y a les accusations qui sont portées contre lui, elles ne sont pas étayées.
Et il dirige le principal parti d'opposition, c'est ça?
Oui, il était opposant aux dernières élections, c'était un candidat aux dernières élections, et aujourd'hui nous demandons sa libération immédiate. Et d'après nos informations, il y a plusieurs dizaines de prisonniers d'opinion, de prisonniers politiques aujourd'hui au Venezuela. Et par rapport à ça, ce que l'on constate, et nous, notre rapport a été fait sur la base justement de prisonniers, de personnes qui sont emprisonnées depuis notamment en 2016, début 2017, hein, puisque notre mission de recherche est finie juste avant les événements qui ont lieu actuellement, et montre comment aujourd'hui le système judiciaire est détourné par le gouvernement, justement pour faire taire l'opposition. D'abord, c'est souvent, c'est les services bolivariens de renseignement qui vont arrêter des personnes sans aucun mandat. Par la suite, ce qui est de juge, donc déjà, ça, c'est illégal, entre guillemets, n'est-ce pas? C'est un abus de pouvoir. Ensuite, elles vont être accusées de faits graves, comme par exemple, trahison à la patrie, terrorisme, vol de matériel militaire, qui permettent, sans étayer avec des preuves factuelles, de mettre les personnes en détention provisoire et souvent à l'isolement, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas avoir accès ni à leur famille, ni à leurs avocats, ce qui fait craindre d'ailleurs pour leur sécurité et c'est craindre pour des risques de torture et de mauvais traitement.
Mais vous dites en fait que c'est la justice militaire qui est appliquée aux civils, voilà. En fait, dans la crise qui est en ce moment en cours au Venezuela.
Voilà, ça va être la justice militaire. Et quand on obtient derrière de la part de juges un ordre de libération parce qu'il n'y a pas de preuve, etc., eh bien malgré cela, les personnes sont maintenues en prison. Alors vous voyez, c'est tout le système judiciaire aujourd'hui est détourné pour contrôler et faire taire l'opposition, parce que de ce fait, beaucoup vont se taire. Sauf que là, on est arrivé à un stade où on sent que les personnes n'ont plus rien à perdre. En janvier, d'ailleurs, il y a eu un parlementaire de l'opposition qui a été arrêté, et ce qu'on lui a reproché, c'est qu'il aurait traversé clandestinement la frontière entre la Colombie et le Venezuela, avec des chefs d'accusation qui seraient liés au terrorisme. Donc, vous voyez,
Oui, on comprend cette situation, non seulement de crise, mais de crise profonde et politique au Venezuela, qui a cours encore en ce moment, dont on ne voit pas l'issue. On entend ça aussi dans ce que vous nous dites, Geneviève Garrigos. Je rappelle que vous êtes ancienne présidente d'Amnesty International France et que vous occupez aujourd'hui des questions liées à l'Amérique latine au sein de l'ONG. On peut préciser que le président Maduro refuse toujours l'aide humanitaire internationale parce qu'il ne veut pas reconnaître la situation qui est en cours, et pourtant on l'a compris, qui commence à être clairement visible au niveau mondial. Merci à vous de nous avoir éclairé ce matin sur la question du Venezuela.
Merci.
Et c'est l'heure du journal, avec 2 minutes de retard, le journal de Thierry Paré.
Le chômage a augmenté au mois de mars, une hausse de 1,3% des demandeurs d'emploi inscrits en catégorie A, c'est-à-dire sans aucune activité. Ça représente 43 900 personnes sans emploi de plus. C'est la plus forte hausse enregistrée depuis septembre 2013. Et c'est dans ce contexte que l'on a appris le placement en liquidation judiciaire de l'enseigne d'habillement MIM. 800 emplois vont être supprimés. Son meeting à Arras hier soir donne peut-être le véritable coup d'envoi de la campagne de l'entre-deux-tours, la sienne en tout cas. Emmanuel Macron a notamment déclaré « Je ne laisserai pas une once de territoire à Marine Le Pen ». C'est pourtant ce qu'il a fait hier. Le candidat du mouvement En Marche avait rendez-vous à la Chambre de commerce et d'industrie d'Amiens avec des représentants syndicaux de l'usine Whirlpool. Au même moment, et à la surprise générale, Marine Le Pen arrivait, elle, à l'usine Whirlpool pour une rencontre avec les salariés sur le parking du site à base de selfies. Emmanuel Macron, qui n'avait pas prévu de se rendre sur le site auprès des salariés, a changé d'avis. Il est donc allé sur place, directement au contact, après le passage éclair de la candidate du Front National. L'ancien secrétaire d'État Pierre Lelouch se retire de la vie politique. Il rend sa carte des Républicains, jugeant la campagne présidentielle de son camp épouvantable. Plusieurs milliers de policiers ont défilé entre Montparnasse et les Champs-Élysées à Paris hier pour réclamer de meilleures conditions de travail. Les Champs-Élysées, où le policier Xavier Jugelet a été abattu, c'était jeudi dernier. On reparle de l'attaque chimique du 4 avril dernier en Syrie. Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Marc Ayrault, en est désormais persuadé, après enquête des services de renseignement français, c'est bien le régime syrien qui serait à l'origine du carnage. Jean-Marc Ayrault qui a notamment indiqué que le procédé de fabrication du gaz sarin prélevé sur les lieux de l'attaque était typique de la méthode développée dans les laboratoires syriens. La purge qui se poursuit en Turquie, la police du pays a annoncé la suspension de plus de 9000 agents accusés de liens avec le prédicateur islamiste exilé aux États-Unis Fethullah Gulen. Le président Erdogan tient Gulen pour responsable du putsch raté du 15 juillet dernier. Le silence des agneaux, c'était lui. Philadelphia, c'était lui. Stop Making Sense, c'était lui également. Le réalisateur américain Jonathan Demme est décédé à New York des suites d'un cancer. Il avait 73 ans. Et puis, le Paris Saint-Germain rejoint Angers en finale de la Coupe de France de football. Les Parisiens ont écrasé les Monégasques hier soir. C'était une équipe de réserve. 5-0.
Oui, c'était une équipe de réserve, il faut le dire. Parce que la vraie équipe, elle va affronter la Juventus.
Après, c'était une équipe de Monaco.
Oui, c'est vrai. Mais un Monaco blanc.
C'est l'heure du débat sur le foot, là. Qu'est-ce qui se passe?
Non, un petit peu, parce qu'on peut parler foot. On va parler bagnole après.
D'accord. Ici la tour de contrôle, ici Armel à la tour de contrôle. Je crois que c'est l'heure de la météo.
Bonjour à tous et bonne fête aux Zita. Le temps aujourd'hui est assez incertain, un peu de soleil, un peu de nuages, un peu de pluie, un peu partout. Les températures seront à Angers de 2 à 13, Avignon de 6 à 16, à Bordeaux de 4 à 15, Corté de 7 à 19, Laval de 3 à 12, Melun de 2 à 13, Montpellier de 7 à 17, Paris de 4 à 13, Reims de 1 à 13, Saint-Étienne de 1 à 9 et Vienne de 3 à 13.
Tata Rumbera, des paroles magnifiques que vous pouvez déposer à la SACEM immédiatement. Tata Rumbera, c'est du texte, hein, c'est la qualité française.
Quelqu'un est dans la rue, et il s'appelle Jack.
Il pleut, non?
On l'entend, il est au bord de l'eau.
Il est au bord de l'eau, je pense.
Ah, je savais pas si vous alliez entendre ou pas. Alors... moi, je suis avec Omar, et Omar, alors il y a une, ça s'appelle une BL, je crois, il y a l'eau qui coule le long du trottoir pour nettoyer les trottoirs, vous voyez, ça sort un peu plus haut, un peu comme une trompe d'éléphant. Et puis, alors, Omar, lui, il sort sa petite brosse et puis il nettoie les jambes de la voiture avec.
Non, c'est pas habituel, mais bon, il y a du temps à perdre, quoi.
Bah, vous disiez que vous n'aviez pas le temps, en fait.
Ouais, on n'avait pas le temps, ouais. On fait beaucoup d'heures.
Donc, cette petite brosse, elle est dans le coffre, et puis chaque fois qu'il y a un petit moment comme ça, vous astiquez la voiture.
Ouais, exactement. Ouais, oui. On nous demande d'être au top, hein. On essaie de faire le maximum.
Vous étiez un petit peu en mode râlerie tout à l'heure.
Ouais, bah oui.
Je vous donne 5 euros, vous faites une petite râlerie pour 5 euros.
Non, du tout.
Et alors, vous aviez peur aussi parce que là, on est dans la file d'attente du taxi et là, ça a avancé, on va vous piquer votre place ou quoi?
Non, ils sont gentils quand même, mais ils voient que je suis là devant, donc devant ma voiture.
Il n'y en a aucun qui va vous doubler?
Non.
Jacques, monsieur est taxi alors?
Bah oui.
Ah ben vous ne l'avez pas dit, mais non, on le sait.
Oui, je suis chauffeur taxi, ouais.
Magnifique.
Elle ne l'a pas dit.
Mais non, vous ne l'avez pas dit, mais on l'a deviné.
Ouais, mais parce qu'il est devant moi alors.
Ah ben d'accord. Mais
nous, on n'a pas l'image.
J'ai oublié qu'on faisait de la radio, moi.
On a juste su qu'il avait une petite brosse et qu'il attendait que la citerne passe pour la nettoyer les jantes. Mais ben, si c'était un jeu, on a gagné alors.
Bravo.
Merci. Monsieur est taxi. Voilà.
Et alors, si on s'avance, monsieur, venez avec moi. Si on s'avance, parce que là, on est dehors du taxi, la fenêtre est ouverte. Dans votre petite mallette avec l'ordinateur, là, il y a une orange et une banane.
Oui,
ce sont des fruits, c'est ça?
Ouais, voilà, c'est des fruits.
Très bien.
Bravo. Bravo.
Donc, il y a un agrume. Bravo. Un agrume pour le oui. Vitamine D et C.
Oui,
y a une banane pour la patate, c'est ça?
Exactement. Voilà. Il y a les petites feuilles, là, c'est quoi? C'est les petites facturettes?
Ouais, c'est des reçus.
Derrière, il y a les petits bonbons pour les clients.
Voilà, avec des bouteilles d'eau.
Et la petite feuille qui dépasse du truc d'aération, là, qu'est-ce que c'est?
C'est moi, ça c'est un petit déchet mignon. Chaque fois, si je me trouve à un endroit, j'essaie de prendre un petit air frais. C'est de la lavande.
Dites-moi.
C'est un brin de lavande.
Jacques, vous voulez acheter la voiture ou pas? Parce que vous faites tout le tour du truc, bon, ça va. Non.
Alors le toit.
Le toit, donc, alors le toit.
Il est ouvert sur le...
sur le monde.
Panoramique, quoi.
Panoramique.
Le toit est panoramique.
Vous la vendez, allez, vous me la vendez.
Allez, vous la vendez.
C'est pas moi la voiture, je la loue.
Bon, allez. Allez, faites une offre. Faites une offre.
Ouais, je vous assure, c'est pas moi.
On va vous piquer votre fille, on va vous piquer votre place dans la file, là. Non?
Ouais. Bah non.
Vous la quoi?
Moi, je la loue, je suis locataire.
Bon, le boulot, ça commence à quelle heure le matin, là?
Ah, moi, je me suis levé à 6h, je commence à 7h. Voilà, 7h dans la voiture.
Est-ce qu'on a des...
pas trop tôt, il y en a, ils se lèvent à 4h. Hein.
Est-ce qu'il y a des problèmes de dos, de lombaire, des choses comme ça, quand on est assis toute la journée dans une voiture?
Ah, bien sûr, c'est atroce, bien sûr. Si on prend pas soin de soi, de faire un petit peu de sport, ce métier-là, il vous use. Hein. C'est 11h, je vous laisse imaginer. 11h assis, 12, de, parfois 13h, si on fait une coupure pour manger et tout ça. Donc.
Vous n'avez pas un médecin du travail qui fait des petites postures, qui travaille sur le corps, les vertèbres, tout ça, une bonne position pour s'asseoir?
Non, non, il n'y a personne.
Dites-moi, monsieur, il y a un panneau à l'arrière des voitures qui dit « Si vous avez un itinéraire préféré, indiquez-le au chauffeur ». Mais il paraît que ça fait râler les chauffeurs de taxi, ça. Vous l'appliquez, vous?
Non, du tout, moi. Ah bah tiens, j'ai une course.
Bah je vous laisse alors. Alors à bientôt, merci. C'était très sympa. On se retrouve très vite, Jacques.
Je réponds à la radio.
D'accord.
Ne ratez pas la course.
Non.
À très vite.
Quelques minutes pour y aller.
Dans un instant, on se retrouve dans Plus près de toi avec Patrick Chamoiseau, qui est l'écrivain martiniquais bien connu, prix Goncourt, pour son livre Frères migrants, qui est paru dans quelques jours.
Donc, plus près de toi, on écoutait le musicien anglais Sing Kane avec le titre Téléphone, 7h42.
7h, 9h, plus près de toi.
Thomas.
Oui, Armel, oui, absolument. Comme promis, Patrick Chamoiseau s'est installé avec nous autour de la table de plus près de toi. Bonjour, monsieur.
Bonjour.
Écrivain, poète, prix Goncourt pour Texaco en 1992, ou publié dans quelques jours, la semaine prochaine, le 4 mai, au seuil Frères migrants, avec un sous-titre Contre la barbarie. C'est une adresse, en fait, au lecteur. Vous nous parlez. C'est un livre qu'on pourrait même imaginer lu sur une scène ou entre amis, ou en tout cas, voilà, qui est fait pour être saisi, j'ai l'impression. Frères migrants, c'est une manière de saisir une réalité qui est celle des migrants qui se perdent, qui meurent parfois dans la Méditerranée. Vous en parlez, vous saisissez les lieux en particulier qui sont Lampedusa, Malte d'un côté, mais aussi l'Irak ou la Syrie de l'autre côté. Et vous saisissez ces lieux-là et cette question-là en poète, en se disant que peut-être, j'ai l'impression en tout cas, à la lecture, on a cette impression que la littérature peut nous aider à comprendre, à réaliser ce qui est peut-être impossible à réaliser si on ne la saisit pas par des mots comme les vôtres.
Oui, c'est sûr. On a un phénomène qui est relativement catastrophique du point de vue simplement humain. Donc on est en face d'une catastrophe humanitaire qui demande des réponses urgentes. On a des interventions qui sont absolument essentielles. On a une problématique politique parce qu'il faut des réponses. Bien sûr, il y a des êtres humains formidables qui, partout dans le monde, ont un accueil spontané et se battent. Hein, ceux qui sont condamnés pour des délits de solidarité, on voit bien qu'il y a des êtres humains absolument incroyables qui, malgré les interdictions légales et le refus des institutions, ils arrivent quand même à aller vers ces gens-là et à pratiquer un accueil spontané. Donc on s'aperçoit que le cadre, ce qu'on peut appeler l'hospitalité organisée par les États et par les institutions politiques, est insuffisant. Parce que des milliers de personnes continuent à mourir sur des prétextes assez lamentables. Donc je me dis que lorsque l'imaginaire politique, ou je dirais le droit positif, le droit en cours, enfin toutes les dispositions et qui devrait normalement réagir et s'organiser face à une marée humaine en train de souffrir lorsque ça ne fonctionne pas, c'est que l'imaginaire politique s'est affaibli. Et on sait que lorsqu'on a un affaiblissement de l'imaginaire politique, c'est qu'il manque du poétique. C'est-à-dire quelque chose qui agisse sur les systèmes de représentation, non pas pour donner des recettes, donner des leçons, culpabiliser je ne sais qui, mais simplement déployer comme ça, comme un essaim de luciole.
Pasolini. Oui, c'est la métaphore qu'on utilisait.
Voilà,
oui, Pasolini, mais aussi
Huberman. Il recherchait dans la nuit,
il
cherchait une petite luciole. Il aurait donné sa vie dans la nuit fasciste pour voir apparaître une petite luciole. Moi, je crois que le rôle de l'artiste, de l'écrivain, du poète, je ne suis pas poète, mais enfin, j'ai une prose poétique. Quoique mon rôle, c'est aujourd'hui d'essayer de lâcher dans les imaginaires quelques images, quelques tressaillements, un peu de musique, une autre manière de voir, de sentir, un bout d'indignation.
Pourquoi cette métaphore des lucioles?
Pardon?
D'où vient cette métaphore de la luciole?
Ben, ça vient de Pasolini. Lorsqu'il y a eu en Italie toute une remontée du fascisme, il a utilisé dans un article en 1975, il a utilisé ce terme qui a eu beaucoup de succès, qui était largement commenté. Et Césaire aussi l'avait utilisé pour parler d'une réalité antillaise. Vous savez, les nuits antillaises sont à l'époque. Maintenant, il y a plein de pesticides, c'est différent. Mais à l'époque, dans une nuit antillaise, on avait énormément de lucioles. Et ceux qui marchaient la nuit et qui n'avaient pas d'éclairage public voyaient les lucioles. Mais le problème des lucioles, c'est qu'on les voit, elles n'éclairent pas le chemin. Alors, il y a un proverbe créole qui dit que les lucioles sont égoïstes, elles n'éclairent que pour elles-mêmes. Et Césaire disait dans un poème, sans expliquer pourquoi, d'ailleurs, il disait il ne faut jamais désespérer des lucioles. Pourquoi il ne faut pas désespérer des lucioles? Parce que lorsque la nuit s'est installée, lorsqu'on n'a pas de solution, il n'y a plus de perspective, on ne trouve pas, de quoi se mettre debout, l'apparition d'une luciole change complètement la nuit. La nuit ne disparaît pas, mais elle devient enchantée.
Patrick Chamoiseau, vous le dites dans Frères Migrants, effectivement, il ne faut pas désespérer des lucioles. En vous lisant, on comprend aussi qu'il ne faut pas désespérer les lucioles, dans le sens où cette lecture-là peut aussi aider à éventuellement, sinon se transformer en lucioles, en tout cas les accompagner. Vous défendez, vous parlez de Césaire, vous défendez l'idée d'Édouard Glissant, autre poète dont vous parlez dans ce livre-là, d'une poétique de la relation, qui est un peu la structure un peu de ce récit.
Oui, l'esthétique de la relation est une esthétique qui est précieuse pour nous. Par exemple, il ne faudrait pas considérer que la question des migrants est une question purement humanitaire. Mmh. On a tendance aujourd'hui, face aux grands défis qui nous sont posés, qui sont assez énormes, on a tendance à les isoler. Alors que l'esthétique de la relation nous permet de comprendre que tout est lié. On ne peut pas séparer la question migratoire des autres grands défis qui nous sont posés, et notamment de la puissance régnante qui est le néolibéralisme, qui intervient sur la totalité de la planète et qui, d'une manière ou d'une autre, est à l'origine de pratiquement tout ce que nous avons à faire et à combattre aujourd'hui. Donc cette idée de relier me paraît tout à fait importante, et là j'essaye de percevoir cette question des migrants au-delà de la dimension humanitaire, au-delà de la question politique, mmh. au-delà de l'expertise économique ou autre, essayer de trouver quelque chose qui relève de l'humain, tout simplement. Parce qu'à la base de tout ça, à la base des démocraties, à la base de l'économie, à la base de toutes les interventions qu'on peut avoir, il y a l'être humain. Qu'est-ce qu'un être humain? Qu'est-ce qu'on peut lui accorder mm-hmm. comme perspective? Et quelles sont les choses qui doivent devenir imprescriptibles et qui s'imposent à nous? Et cette poétique-là est intéressante. L'autre élément, c'est qu'on a perdu la possibilité, dans les grands défis qui nous sont posés, on a perdu l'habitude d'entendre les artistes. Oui. On a tous les experts qui sont immédiatement posés, mais on ne se dit jamais qu'il y a une connaissance artistique. Je crois qu'il y a véritablement une connaissance poétique des choses. Mmh. Lorsque Césaire était dans la nuit colonialiste et qu'il a sorti le cahier d'un retour au pays natal, qui est un poème, quelque chose qui a porté pendant des générations et des décennies des luttes anticoloniales. Mmh. Et quand on lit le cahier de retour au pays natal, c'est une espèce de langage absolument mmh. fabuleux, où il y a des images, de la musique, des tressaillements, des choses
poétique, politique.
Qui réveillent l'esprit, qui libèrent l'imagination et qui, d'une certaine manière, renouvellent notre perception et permet le surgissement d'autres possibles. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, le texte de Frères Migrants, il est conçu pour que des comédiens, des chorégraphes, des musiciens, oui. tous les artistes peuvent s'en emparer pour faire un événement esthétique et favoriser une connaissance poétique des choses. Parce que la connaissance poétique, elle n'ouvre pas un horizon. L'horizon a quelque chose de totalitaire comme ça. Elle déclenche des images, et lorsque les images sont nombreuses, comme un dessin de Luciole, à ce moment-là, l'espoir se réveille pour tous et chacun peut agir à sa manière.
Là où on comprend aussi que Frères Migrants, Patrick Chamoiseau, est une ouverture et le début peut-être de quelque chose, c'est qu'il se termine par un manifeste, une déclaration des poètes.
Ah non, c'est pas... Oui, ça peut être un manifeste, ouais. L'histoire de la littérature est parsemée de manifestes, mais à la fin, je me suis dit, mais tu es en train d'écrire dans ton petit coin et tu es en train de déclencher en toi une indignation féconde, mais finalement, tu n'es pas seul, parce que lorsqu'un écrivain s'attaque à un sujet, il y a toute une bibliothèque qui vient avec lui, il y a toute une population de poètes. Et ce que je me suis dit, l'image que j'avais, lorsque ces migrants sont matraqués comme ça et poursuivis par la police, s'il fallait imaginer ceux qui auraient pu se dresser en face des policiers, on aurait Rabelais, on aurait Villon, mm-hmm. on aurait des philosophes absolument extraordinaires. Nous ne sommes pas seuls. Donc du coup, je me dis, mais il faut que tous ces gens-là viennent avec moi, comme ils sont autour de moi pendant que j'écris. Tous ces poètes, tous ces grands êtres humains qui n'auraient pas accepté cela, il faut qu'ils soient là et qu'ils fassent une déclaration commune, ce que j'ai fait à la fin du livre.
Vous réussissez ça, Patrick Chamoiseau, d'en faire un migrant, à partir de cette réalité terrible, de donner l'espoir, de donner une forme, ouvrir une voie esthétique, comme vous dites à l'intérieur du livre. À partir de ça, vous nous invitez à partager ce chemin. On invite donc chacun à trouver, à partir du 4 mai en librairie, ce livre, Frères Migrants, sous le regard de Ine Medeb et Jeanne Sautière, qui sont aussi présentes dans ce livre-là. Merci beaucoup d'être passé dans Plus Près de Toi ce matin, Patrick Chamoiseau.
Merci d'être une luciole qui nous avait éclairé.
7h, 9h, Plus Près de Toi.
De 7h à 9h, j'écoute Plus Près de Toi.
Plus Près de Toi. Ah,
Il y a vraiment des interventions pertinentes.
Tu t'es levé de bonne heure, Daniel ? Tu t'es levé à quelle heure ?
Tôt.
Tôt ? C'est quoi tôt ? 7 heures ? Voilà. Tu es venue avec une amie à toi, Lila, c'est ça ? Bonjour, Lila.
Bonjour, Lila.
Voilà. Et il est poli, lui, tu vois. Tu t'es brossé les dents ce matin ? Non ? Pourquoi ? Pourquoi tu t'es pas brossé les dents, Daniel ?
Parce que j'étais très fatiguée.
Ah oui, quand on est fatigué, on ne se brosse pas les dents. Et tu es à quelle école alors ? Tu es à l'école avec Lila ? Elle est gentille, Lila ? Voilà. Qu'est-ce que vous apprenez à l'école ?
Du travail.
Du travail ? Oui, c'est bien d'apprendre le travail. Et là, tout à l'heure, vous allez aller à l'école. Vous allez faire quoi ? Vous allez dessiner ?
Oui.
Voilà. Vous savez, vous allez compter ?
Oui.
Daniel, tu vas compter ? 2 plus 2, ça fait combien ? 2 plus 2, ça fait ?
4.
Voilà, on a tout le studio a soufflé, mais ça fait 4. Et donc, est-ce que tu aimes le sport, Daniel ? Non ? Il faut que tu parles dans le micro, Daniel. C'est aussi du sport, ça. Bon, tu vas nous chanter une chanson ? Daniel, tu veux chanter une chanson ou pas ? Comment s'appelle la chanson ?
Para bailar la bamba.
Para bailar la bamba, c'est aussi de la poésie. Donc allons-y, Daniel.
Je dis que j'ai un petit peu la voix cassée.
Ah, ben c'est bien de prévenir l'auditoire que tu as la voix cassée. Tu sais, tous les grands chanteurs ne le font pas. Céline Dion ne le fait jamais. Et pourtant, elle a la voix cassée. Donc c'est à toi de chanter
para
la bamba.
Para bailar la bamba. Para bailar la bamba. La boca de clase, la boca de...
Alors, Daniel, c'est bien.
C'est très bien.
Une très bonne répétition. Mais on va la refaire sans le sucre. Ne sois pas timide, donne-moi le sucre. Et tu cries bien fort, comme si tu criais. Pose le sucre par terre, là, voilà. Et tu chantes bien fort et bien lentement la bamba. 1, 2, 3.
La bamba, la bamba, ça nécessite un apocalypse. Un apocalypse de grâce, un peu de patrie. Il va y arriver, pour ti, si.
Porti-se-le,
bamba, bamba,
bamba, bamba,
bamba, bamba,
bamba.
C'est une bamba berceuse ?
C'est une bamba berceuse. Bala, baila, la bamba, à vous deux. Allez-y. Vas-y, c'est... Hein ? Tu sais plus ? Alors Lila, ta petite accompagnatrice, ne sait plus. Mais non ? Et toi, Lila, tu veux chanter une chanson ?
Je sais.
Laquelle ? Petrouchka ?
Petrouchka.
Bah alors, vas-y.
Petrouchka, pleure pas. En tu rentres dans la ronde, fais danser tes nattes blanches. Ton petit chat revient quand t'en te chante la colombe parle sur le toit. Quand s'avance la mi-temps, le joli Petrouchka.
Ouais. Bravo ! On vous applaudit tous les deux. On vous a réveillés. Il y en avait un qui avait la voix cassée, l'autre qui avait beaucoup d'énergie. C'était un joli duo. Hein. Et on vous laisse alors. D'accord ? Et on enchaîne directement avec les infos. Et merci les enfants.
Merci.
Ça peut paraître paradoxal au regard des nombreuses découvertes spatiales de ces dernières années, mais nous n'en sommes qu'aux prémices de ces dernières tentes. C'est immense et l'on se rêve immortel pour voir la suite. La suite, en l'occurrence, elle se conjugue au présent. La sonde Cassini, qui est en orbite autour du système saturnien depuis 2004 maintenant et qui a déjà contribué à de nombreuses avancées scientifiques, va peut-être nous en dire encore un peu plus. Elle a commencé à plonger vers une zone qui nous est totalement inconnue, près de l'anneau D de Saturne. Elle va y rester quelques temps, le temps de faire 22 fois le tour de cette... Elle va rester 22 fois en orbite, voilà.
Mais qu'est-ce que tu racontes ?
Mais si, elle va faire 22 orbites, en fait, autour de Saturne, et si elle y parvient, et ensuite, elle va se précipiter vers Saturne, vers sa fin aussi, hein, vers Saturne, vers sa fin. Tu notes bien le...
Tout de suite, les infos, Thierry Paré.
Plus terre à terre, 43 900 personnes sont venues gonfler les rangs des demandeurs d'emploi le mois dernier. Le chômage a augmenté de 1,3% au mois de mars. On parle des demandeurs d'emploi inscrits en catégorie A, c'est-à-dire sans aucune activité. C'est la plus forte hausse enregistrée depuis septembre 2013. C'est dans ce contexte que l'on a appris le placement en liquidation judiciaire de l'enseigne d'habillement Mime, 162 boutiques, hein, 800 emplois vont être supprimés sur 1400. Son meeting à Arras hier soir donne peut-être le véritable coup d'envoi de sa campagne de l'entre-deux-tours. Emmanuel Macron a notamment déclaré « Je ne laisserai pas une once de territoire à Marine Le Pen ». C'est pourtant ce qu'il a fait hier. Le candidat du mouvement En Marche avait rendez-vous à la Chambre de commerce et d'industrie d'Amiens avec des représentants syndicaux de l'usine Whirlpool. Au même moment, et à la surprise générale, Marine Le Pen arrivait à l'usine Whirlpool pour une rencontre avec les salariés sur le parking du site. Emmanuel Macron, qui n'avait pas prévu de se rendre sur le site, a changé d'avis. Il est allé sur place directement au contact des salariés après le passage éclair de la candidate du Front National. L'ancien secrétaire d'État Pierre Lellouche se retire de la vie politique et rend sa carte des Républicains, jugeant la campagne présidentielle de son camp épouvantable. Le député de Paris a annoncé qu'il rendrait son investiture dans la première circonscription de la capitale. Plusieurs milliers de policiers ont défilé entre Montparnasse et les Champs-Élysées à Paris hier pour réclamer de meilleures conditions de travail. Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Marc Ayrault, en est désormais persuadé, après enquête des services de renseignement français, c'est bien le régime syrien qui serait à l'origine de l'attaque chimique du 14 avril dernier à Khan Younes. Selon Jean-Marc Ayrault, le procédé de fabrication du gaz sarin prélevé sur les lieux de l'attaque est typique de la méthode développée dans les laboratoires syriens. La purge qui se poursuit en Turquie, la police du pays a annoncé la suspension de plus de 9000 agents accusés de liens avec le prédicateur islamiste exilé aux États-Unis. Fethullah Gulen, le président Erdogan tient Gulen pour responsable du putsch raté le 15 juillet dernier. Et Ankara a aussi annoncé l'arrestation de plus d'un millier de partisans présumés du prédicateur. Le silence des agneaux, c'était lui. Philadelphia, c'était lui. Stop Making Sense, c'était lui également. Le réalisateur Jonathan Demme est décédé à New York des suites d'un cancer. Il avait 73 ans. Angers, PSG, ce sera la finale de la Coupe de France de football. Les Parisiens ont éclaté, on peut le dire. Les Monégasques, hier soir au Parc des Princes, 5-0. Il s'agissait de l'équipe de réserve de Monaco. Du coup, personne ne comprend bien pourquoi ce matin Monaco est allé si loin dans cette compétition, si c'était pour finir en demi-finale de cette manière-là. Une dernière info pour la route, on a retrouvé sur un fossile de mammouth découvert sur le chantier d'une autoroute dans les environs de San Diego en Californie, des traces certainement humaines. Le problème, c'est que ce fossile est daté d'une période où l'Homo sapiens n'était pas encore censé avoir quitté son berceau africain. Bref, en clair, on vient de découvrir que l'homme était présent aux États-Unis depuis bien plus longtemps que ce qu'on supposait.
C'était des Trumps.
C'est comme ça qu'on les appelait ?
Oui, c'était des espèces de dômes de Cro-Magnon avec des perruques blondes qui chassaient le mammouth. Voilà.
J'ai vu des images. Mais sur le foot, vous étiez un petit peu, Thierry, il y avait quelque chose, il y a un compte à régler, je ne sais pas.
Ah non, mais je me mets à la place des supporters monégasques qui ont fait le déplacement. Et, parce qu'en fait, hier, il n'y avait pas de match, en fait. Il n'y a eu qu'une équipe qui a joué.
Oui.
C'est une demi-finale, ouais. Ça coûte très cher pour certains supporters, en fait. Et quand ils ont vu ça, je pense qu'ils ont dû être très déçus.
Et on peut revenir sur Lellouche qui rend sa carte. C'est quoi rendre sa carte ? C'est l'acheter sur la table comme un flic qui dit ouais, je ne suis plus en mission, tout ça et tout.
Vous avez vu beaucoup de films
beaucoup de
policiers.
Hein. J'adorais. Oui, je rends ma carte DLR. Ouais. Ah, tiens, mon badge et mon arme. Il va prendre quelle carte, Pierre Lellouche ? On ne sait pas encore.
On verra bien. On revient dans la rue avec Jack.
Le quoi ? J'attends l'heure. Vous voulez, je vous la donne si vous voulez. Non, je l'ai, merci. Vous m'avez dit, j'attends l'heure. Oui, mais j'attends l'heure d'être là où je dois être. D'accord. Et c'est où ? C'est un peu plus loin. Tout droit ? Non, faut que je tourne à gauche. On tourne à gauche dans... Bonjour les gars, on tourne à gauche dans 100 mètres à peu près.
Oh, pas tant que ça. Il y a moins de 100 mètres, là.
On va où ? On va où je dois aller ? Je vous ai suivi, moi, parce que j'ai bien aimé votre moustache et votre sac à dos. Et vos petites lunettes teintées.
Ah, c'est sympa. Ouais, mais ça, c'est parce qu'il fait froid.
Je vous accompagne un petit bout.
Bien, c'est bien.
J'avais envie de parler à quelqu'un.
Et le reste du temps, vous faites quoi ?
Je regarde les arbres, je compte les nuages.
Vous n'avez pas trop à faire aujourd'hui, ça va.
Je peux vous aider, si vous voulez, dans votre besoin.
Comptez les nuages.
Jacques, vous vous faites engueuler un petit peu, c'est bien ?
Un petit peu. Ah, mais là vous foutez de moi, monsieur.
Un peu ?
Parce qu'on vient, on retourne sur nos pas. Ouais, c'est ce que je vous dis, j'attends l'heure. Vous voulez pas m'emmener où vous allez ?
Non, je vois pas pourquoi.
Il y a assez de monde là où je vais. Ah bon ? Alors on en apprend un petit peu plus là.
Bah non, c'est ça. C'est déjà bien assez embêtant.
Bon, vous avez la tête où ce matin là ?
Oh, c'est rien. J'aimerais autant que ce soit chez moi.
C'est marrant parce que dans votre démarche, on passe du pied gauche au pied droit. Ça fait un peu une démarche en canard quand même. Hein ?
Ouais. On est nombreux dans ce cas-là, remarque.
Ah ouais, d'accord.
Oui, et la personne devant, vous avez vu un petit peu comment elle est là ?
Ah, à un certain âge, mais alerte hein, quand même.
Vous faites un joli duo là ?
C'est étrange ce matin, il y a un petit froid glacé.
Oui.
Il y a des avenues légèrement. Comment ?
Oh, du froid d'être glacé.
Oui.
Donc, les rues sont légèrement désertes. Quand je dis légèrement.
Demain, il y a le marché, vous aurez du monde.
Oui, c'est légèrement désert dans le sens où les avenues sont longues. Je suis à boulevard Richard Lenoir, donc c'est assez, vous voyez, il y a une grande perspective. Et on voit des petites silhouettes, mais vraiment toutes petites parce qu'elles sont très très lointaines. Ils ont allé jusqu'à Stalingrad hein, quand même. Hein.
Monsieur va travailler, Jacques.
Arrêtez de l'embêter. Mais il ne me dit pas où il va.
Vous voulez pas le dire, monsieur?
Non, mais je vais y aller, vous inquiétez pas.
Mais en tout cas, on peut annoncer bientôt un duo sur scène, très vraisemblablement.
Jacques et monsieur.
Voilà, c'est du Dubia ou c'est du Ionesco.
Bonne marche, au revoir.
Bonne marche.
À tout à l'heure, Jacques.
7h, 9h, plus près de toi.
Snoop Dogg s'essaye au rock folk, c'était My Medicine à l'instant dans Plus Près de Toi. On est vraiment très très à cheval sur les horaires, la revue de presse c'est 8h20, sauf aujourd'hui.
Qui c'est qui a dit qu'elle travaillait pas, qu'elle fait que lire le journal? La revue de presse de Marie Misset.
Bonjour.
Bonjour.
La guerre est déclarée. C'est le titre de Libé du jour qui revient sur l'affrontement par ouvriers interposé d'Emmanuel Macron et Marine Le Pen hier. Affrontement dont parlent aussi évidemment les Échos, Le Figaro, Le Parisien. C'était à l'usine Whirlpool à Amiens, bientôt délocalisée en Pologne. L'auteur de l'article dans Libé et qui relate l'aventure n'a visiblement pas peur des mots, faisant référence aux propos d'hier matin de Jacques Attali qui considère que Whirlpool est une anecdote. Dans une histoire un peu plus grande, il écrit « Là où Jacques Attali voyait une anecdote, Marine Le Pen a perçu l'occasion de mettre en scène un combat épique, une lutte dans la suie et dans la rage. » Emporté dans son élan littéraire, le journaliste continue « La mise en scène fut, je cite, d'une ébouriffante intensité. » Pendant que Macron était avec l'intersyndicale, Marine Le Pen a été voir les ouvriers et dans un article qui revient sur la même scène d'une ébouriffante intensité, le Parisien explique qu'au bureau du FN, personne ne savait où allait Marine Le Pen le matin même. Elle est donc allée sur le parking de Whirlpool en sous-entendant que Macron, lui, ne voulait pas parler avec les ouvriers, en promettant de ne pas laisser l'usine se fermer et en rappelant les propos un peu fâcheux de Macron sur les ouvriers illettrés. Macron est arrivé ensuite, prouvant que, par la suite, avec son équipe de campagne, que la visite des ouvriers était vraiment prévue dans le programme. Il a été accueilli avec bruit et froideur. On n'a pas le cuit pour comprendre ce qu'il dit, on est des illettrés, ironise l'une d'entre elles. Pendant 45 minutes, il a promis d'être là, il a parlé de formation, il a fustigé les belles promesses impossibles à tenir. Au moins, il nous parle, considère une ouvrière. Il en ressortira de cet affrontement avec les ouvriers une heure plus tard en serrant la main d'une femme qui avait promis qu'elle ne lui serrerait pas. François Ruffin, Red Chef de Fakir, réalisateur de Merci Patron, figure de Nuit Debout, en conclut toujours dans l'UB. C'est un adversaire réglo, quelqu'un avec qui on aime boxer. Amusant par ailleurs de constater que la presse ne remporte pas non plus les suffrages des militants de Macron. En tout cas, d'une qui s'en est pris aux journalistes et leur a reproché de vouloir couler le seul candidat qui pouvait sauver la France. Comme quoi, 15 ans après les cris de 2002, tout le monde déteste le Front National. Il semble que ce soit les journalistes qui aient pris la relève. À propos de cris qui ne sont plus scandés et de chaunes qui ne sont plus dites sur le FN, l'autre grand sujet politique qui n'aura échappé à aucune de vos timelines Facebook, c'est le silence de Jean-Luc Mélenchon. Silence écrasant pour Libé. Mélenchon, l'apprenti sorcier, c'est la une du Parisien qui ressort évidemment le discours anti-Le Pen et appelant à voter Chirac, du leader de la France insoumise en 2002. Si l'ensemble de la classe politique se déclare choqué de ce silence, il est intéressant de constater que dans la voix express du Parisien qui est consacrée aujourd'hui donc à cette question du silence de Mélenchon, 4 personnes sur 5 interrogées trouvent qu'il est normal que Jean-Luc Mélenchon n'appelle pas à voter Marine Le Pen. Le Monde titre d'ailleurs sur la difficulté de créer un front républicain. Pardon, à voter contre Marine Le Pen. Donc de créer un front républicain. Un front républicain qui vient parfois de là où on ne l'attendait pas, en l'occurrence de Gaël Nofri, ex-conseiller municipal FN à Nice, qui dans une tribune dans le Huffington Post appelle à faire barrage contre le parti de Marine Le Pen qu'il connaît, je cite, de l'intérieur, où il a pu constater tout le mensonge que représente la dédiabolisation, les racistes, xénophobes et antisémites. Ce n'est pas l'article du Monde sur l'entourage de Marine Le Pen qui le contredirait. On y trouve notamment en visiteur du soir de la présidente, ex-présidente du Front National, un grand ami de Soral, Philippe Penquin, ex-patron du GUD. Ce n'est pas non plus le petit encadré de Libé sur le négationniste et lecteur de Forisson, Jean-François Jalques, nouveau président du FN, qui le contredira.
Merci beaucoup, Marie. Ce que vous venez de faire là, en quelques minutes, cette revue de presse, reflète véritablement toute la presse. C'est qu'aujourd'hui, ce sont vraiment les deux
Alors,
sujets.
Alors, il y a ça, et il y a un sujet dont je n'ai pas parlé, mais qui est intéressant à lire aussi, c'est les 100 jours de Trump.
Eh oui,
c'est les 100 jours de Trump sur lequel La Croix fait sa une et sur lesquels on revient notamment dans Libé, encore une fois, avec des articles sur les partisans de Trump.
Est-ce qu'on parle de ses lunettes de soleil ?
Ah oui, c'est vrai. J'ai oublié que je les avais. J'ai oublié mes lunettes et il se trouve que mes lunettes de soleil sont à ma vue.
Bernard dit que son bilan est maigre à Trump, c'est vrai ou pas ?
Le bilan est très maigre après 100 jours. Bon, alors les partisans du coup accusent l'appareil politique de Washington de le bloquer.
Dans un instant, on continue à parler de l'actualité, politique avec Grégoire Bizot de Libération pour sa chronique.
7h, 9h, plus près de toi.
7h, 9h, Édouard Baird. Plus près de toi.
Plus près de toi.
Je trouve tout ça d'une vulgarité épouvantable. Ça me débecte.
Bonjour Grégoire Bizot.
Bonjour.
C'est quoi l'ambiance en ce moment à Libération ?
Oh, c'est une ambiance un peu de fatigue et de tension, voilà. Mais c'est vrai qu'on a vécu une campagne un peu folle. Hein, et c'est vrai que dimanche soir, on était jusqu'à 8h moins le quart, on avait des indications un peu contradictoires. Donc cette tension a été jusqu'à son terme, on va dire, jusqu'aux dernières minutes.
Mais elle vous plaît, Bernard cette campagne ?
Est-ce qu'elle me plaît, cette campagne ? Et alors, c'est une campagne en termes de dramaturgie, on va dire feuilletonesque. Si j'étais scénariste de série, je dirais c'est magnifique. Et si je suis citoyen, je dirais ça n'a pas été une très belle campagne quand même, non ? Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez.
Elle n'est pas finie, surtout. On attend le dénouement.
Elle n'est pas finie, absolument. Et c'est vrai qu'on peut s'inquiéter. Alors, il y a cette espèce de débat que je n'arrive pas à trancher. Je ne sais pas ce que vous en pensez entre... Est-ce que le corps social et les Français ont banalisé le Front National ? Comment on explique que, c'est vrai, il n'y a pas d'appel si massif à manifester ? Il est probable que lundi 1er mai, les défilés seront peut-être un peu plus garnis que d'habitude, mais il n'y aura probablement pas, enfin, malheureusement, de grandes manifestations de masse. Est-ce que c'est un signe d'affaissement, de résignation, ou est-ce que finalement, il faut vivre avec un Front National à 30% et finalement, à 30%, à 22, 23, on verra ce qu'ils feront au deuxième tour, et que finalement, c'est le jeu démocratique.
Un Front National qui progresse à chaque élection.
Qui progresse à ce jeu. Et finalement, les Français l'ont intégré aujourd'hui comme une donnée politique. Voilà.
Alors vous dites que les repères politiques sont bousculés, ont été bousculés beaucoup au cours de cette campagne, les cartes ont été beaucoup rebattues. Et pour autant, ce qui s'est passé hier sur le parking de Whirlpool, dites-vous, résume 20 ans de la vie politique française.
Ouais, les élections présidentielles, c'est un peu comme les repas de famille. On ne sait pas pourquoi, ce n'est pas toujours le cas, mais on ne sait pas pourquoi, à un moment, au moment du dessert, les secrets, les drames, les blessures peuvent ressurgir et tout d'un coup, c'est le drame. Et cette élection présidentielle 2017, c'est bien... On est en train de revivre la fracture souterraine, mais qui a été douloureuse, du référendum de 2005. Vous vous rappelez, c'est ce combat fratricide
sur
le traité constitutionnel européen, ce duel fratricide entre la France des nonistes et la France des ouïistes. Hein, et cette France qui était une agrégation alors caricaturale de la France qui va bien, de la France du haut, de la France mobile, diplômée, et de la France qui va un peu moins bien, plutôt du bas, ouvrière. Voilà. Et en 2007 et en 2012, ce combat et cette fracture-là étaient restés souterraines. Et là, pouf, elle ressort des urnes comme une grande fracture à la fois sociologique et politique. Et quelque part, je me dis que dans notre psychologie collective, il y avait une envie de refaire le match, une envie de refaire ce duel, ce débat qui nous avait tant divisé, alors à gauche bien sûr, mais à droite également, et que là, c'est l'occasion, ce duel entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron est, si je puis dire, la formule chimiquement pure de la France ouïste et de la France noniste. Et sur ce parking de Whirlpool, il y a derrière ces deux candidats, sur fond d'une usine délocalisée en Pologne, ça, rappelez-vous, en 2005, c'était le plombier polonais, la directive Bolkenstein, pouf, il y a une réminiscence là, oui, l'Europe est-elle une protection ou au contraire ou au contraire une menace. Là, derrière cette toile de fond de cette usine délocalisée, les deux Frances sont là. Il y a la France du repli, de la protection douanière contre celle qui dit « Eh ben, il faut bouger, il faut accepter la mondialisation, il faut accepter cette Europe que vous n'aimez pas, mais c'est par plus d'Europe que vous allez, qu'on va pouvoir s'en sortir ».
Il y avait des digues quand même dans la France du non. Enfin, on ne peut pas dire qu'elle était totalement unifiée. Il y avait les gens de ce qui allait devenir la France insoumise et le Front National.
Absolument. Et c'est pour ça que cette élection est d'autant plus le révélateur de ce 2005 que la France insoumise, c'est-à-dire l'autre part du non, puisque vous vous rappelez, le non était composé d'une droite extrême ou conservatrice, réactionnaire, un peu souverainiste. Et puis il y avait un non européen, un non de gauche radicale, anti-libérale. Et là, il est revenu, il est remonté à la surface, on va dire, avec le vote de la France insoumise et de Jean-Luc Mélenchon. Et ça peut expliquer en partie pourquoi quelque chose qui est, a priori, pour quelqu'un de gauche, totalement incompréhensible, c'est-à-dire ce fameux silence de Mélenchon, pourquoi Mélenchon n'appelle pas à voter, même pas pour Emmanuel Macron, mais contre Marine Le Pen, puisqu'il n'a pas réussi à formaliser le contre Marine Le Pen. C'est que, quelque part, son histoire politique, l'histoire politique de cette France insoumise, elle s'inscrit dans cette histoire. C'est-à-dire que je ne vais pas, moi, avec mon courant, je ne veux pas être assimilé politiquement à cette France du oui, à cette France d'en haut, à cette UMPS, on va dire, hein, je reprends un peu sa formule, à cette France du système, à cette oligarchie, je reprends les mots de Jean-Luc Mélenchon. Alors, il y a bien sûr, dans ce silence, une espèce de ressentiment, une amertume, parce que Jean-Luc Mélenchon, compte tenu de son score, s'attendait probablement...
C'est pas très fair-play, il n'a pas la belle victoire. Quoi.
Non, ça c'est sûr, il n'a pas la belle victoire. Ouais. Mais il y a, parce qu'il prend un risque colossal quand même, hein, mais y compris parmi ses électeurs, qui peuvent absolument pas comprendre.
Y compris pour les législatives et pour les élections suivantes.
Y compris pour l'avenir, y compris même, soyons un peu comme ça, un peu sentencieux, y compris vis-à-vis de l'histoire, parce que c'est quand même des moments où, pour un homme politique, ne pas prendre position à un moment comme ça, à des rendez-vous comme ça, c'est quand même quelque chose qu'on laisse dans l'histoire. Mais tout en assumant ce risque, ce débat-là, il existe malgré tout dans cette France insoumise. Il y a des insoumis, il y a des électeurs de Jean-Luc Mélenchon qui ne peuvent pas voter pour Emmanuel Macron, précisément parce que ils sont les héritiers de ce combat qui avait été d'une rare violence entre cette France du oui et cette France du non.
Et il y a 9-10% d'entre eux qui voteront Marine Le Pen, je crois. Hein.
C'est ça. Alors on sait, enfin, c'est ce que disent aujourd'hui les sondages. Entre 10%, c'est un chiffre qui monte autour de 30% pour les électeurs de François Fillon. Donc, malgré tout, c'est là où il y a une espèce de... Aussi, dans la position de Jean-Luc Mélenchon, une grande forme d'hypocrisie, puisque je vous rappelle que dans les bulletins, puisque les France Insoumise va être consultée, dans les bulletins, il n'y a pas de vote. On ne peut pas voter pour Marine Le Pen. On peut s'abstenir, voter blanc ou voter Emmanuel Macron. Mmh. Donc, si on ne vote pas... si on ne peut pas voter pour Marine Le Pen, on ne comprend pas très bien pourquoi Jean-Luc Mélenchon n'a même pas pu dire tout sauf Marine Le Pen. Oui.
L'Europe dans l'inconscient ou dans le conscient d'ailleurs des électeurs et de ses prises de position. Vous avez donné quelques arguments pour les discussions autour du rôti dimanche en famille, parce qu'on va en discuter. Hein. Le Nini, je pense que ouais, en France, on va beaucoup en discuter.
Le Nini risque de travailler encore un peu une partie de la France. Absolument. Merci.
On peut juste aussi revenir sur l'histoire du parking d'hier, où je trouve que Macron est allé en contact, comme faisaient à la fois Chirac ou Giscard à l'époque, quand ils allaient vraiment parler aux gens. Dans la foule, c'était pas facile, c'était pas gagné. Et à la fin, je trouve quand même qu'il a remporté.
Atman, ils reviendront pas. Chirac et... Non, a priori, ils ne vont pas revenir. Je suis désolé.
Ouais, mais
a priori, en tout cas.
Ça m'a plu, moi. Ça m'a plu, voilà.
Merci, Grégoire Bizot.
Merci.
Qu'est-ce qu'il y a comme flûte dans ce morceau? C'est un festival de flûte. Polo et Pan à l'instant sur Nova. Oui.
Mme Poumaillou Kélif. Voulait dire quelque chose. Bon, elle ne veut pas le dire, alors ça sera tout.
Alors, Eugénie Poumaillou qui prépare l'émission.
Oui, oui. Mais qui n'a pas de micro, donc
qui n'a pas de micro. Voilà.
Donc elle veut dire quelque chose très fort.
Faut que tu dises
les infos de Thierry Paré.
Ah, voilà.
Merci Eugénie. Entre sifflets, huées et marine présidente, crié à son passage, Emmanuel Macron a eu droit hier à un accueil houleux, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, sur le site Whirlpool d'Amiens, menacé de fermeture. Le candidat du mouvement En Marche, qui avait rencontré l'intersyndicale du site dans la matinée, est allé à la rencontre des salariés quelques heures après la visite surprise de son adversaire politique, Marine Le Pen. L'ancien secrétaire d'État Pierre Lelouch se retire de la vie politique et il rend sa carte des Républicains, jugeant la campagne présidentielle de son camp épouvantable. Plusieurs milliers de policiers ont défilé entre Montparnasse et les Champs-Élysées à Paris hier pour réclamer de meilleures conditions de travail. Vireil, les Champs-Élysées, où le policier Xavier Jugelet a été abattu, c'était jeudi dernier. 43 900 personnes sont venues gonfler les rangs des demandeurs d'emploi le mois dernier. Le chômage a augmenté de 1,3% au mois de mars. On parle des demandeurs d'emploi inscrits en catégorie A, c'est-à-dire sans aucune activité. C'est la plus forte hausse enregistrée depuis septembre 2013. C'est dans ce contexte que l'on a appris aussi le placement en liquidation judiciaire de l'enseigne d'habillement Mime. 162 boutiques, 800 emplois vont être supprimés sur 1400. Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Marc Ayrault, en est persuadé. Après enquête des services de renseignement français, c'est bien le régime syrien qui serait à l'origine de l'attaque chimique du 4 avril dernier à Khan Younes. Selon Jean-Marc Ayrault, le procédé de fabrication du gaz sarin prélevé sur les lieux de l'attaque est typique de la méthode développée dans les laboratoires syriens. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, une énorme explosion aurait eu lieu ce matin près de l'aéroport de Damas. En fait, là-bas, c'est le soir. Apparemment, plusieurs incendies sont en cours. On n'en sait pas davantage pour l'instant. La purge qui se poursuit en Turquie, où la police du pays a annoncé la suspension de plus de 9000 agents accusés de liens avec le prédicateur islamiste exilé aux États-Unis, Fethullah Gulen. Fethullah Gulen qui est jugé responsable du putsch raté du 15 juillet dernier par le président Erdogan. Le silence des agneaux, Philadelphia, Stop Making Sense, tous ces films étaient signés du réalisateur américain Jonathan Demme. Il est décédé à New York des suites d'un cancer. Il avait 73 ans. Angers-PSG, ce sera la finale de la Coupe de France de football. Les Parisiens ont atomisé hier soir au Parc des Princes une équipe monégasque composée essentiellement de réservistes. Si le but c'était de surprendre les Parisiens, ça a bien marché puisque ces derniers se sont imposés 5-0. La sonde Cassini, qui est en orbite dans le système saturnien depuis 2004 et qui a déjà contribué à de nombreuses avancées scientifiques, va peut-être nous en dire encore davantage. Elle a commencé à plonger vers une zone qui nous est totalement inconnue, près de l'anneau D de Saturne. Elle y restera, si elle y parvient, le temps d'effectuer 22 orbites avant de se précipiter vers Saturne et donc vers sa fin aussi. Vous avez été secoué en apprenant que ce n'était pas Christophe Colomb qui avait découvert l'Amérique. Eh bien, voici un choc supplémentaire. On a retrouvé sur un fossile de mammouth découvert sur le chantier d'une autoroute dans les environs de San Diego, en Californie, des traces certainement humaines. Le problème, c'est que ce fossile est daté d'une période où l'Homo sapiens n'était pas encore censé avoir quitté son berceau africain. Bref, en clair, on vient de découvrir que l'homme était présent aux États-Unis, sans doute, depuis bien plus longtemps que ce que l'on supposait.
Rien à dire là-dessus, non ? On l'a déjà dit. Alors, météo ?
Te lo digo cantando, te lo digo bailando, te lo digo llorando, te lo digo te quiero ta ta ta. Alors bienvenue à tous. Aujourd'hui, les températures seront à Amiens de 4 à 12, à Beauvais de 3 à 12, à Brest, il fera un peu plus froid qu'ailleurs, alors tandis qu'à Dreux, il fera de 3 à 12, à Limoges de 1 à 12, à Metz de 1 à 13, à Pau de 3 à 14, à Fort-de-France de 23 à 29, à Kourou de 24 à 31. Te lo digo cantando, te lo digo bailando, te lo digo llorando, te lo digo te quiero ta ta ta.
Votre guitare a rapetissé, Tito.
L'émission très espagnole, la bomba, Tito. Magnifique.
Oui, c'est magnifique. Et puis, tu te rends compte que c'est dans la météo, dans cette émission, qu'on dit bienvenue. Il était temps.
Exactement.
Jack est dans la rue.
Place de la République, même. Place de la République. Donc, j'ai quitté notre ami qui attendait l'heure. On tournait en rond en attendant l'heure, c'était super.
Bon, duo.
Et
ouais.
un petit peu au frais, notre duo. Et puis là, on est place de la République. Le soleil est vraiment sorti et éclaire la Marianne, les lampadaires. Et sur la place, il y a un énorme objet qui est en fait un camion qui pourrait être une soucoupe volante, un objet étrange, en tout cas, qui attire l'œil. Et c'est je suis avec Nathalie Crassé et c'est le projet MUMO. Un musée mobile, c'est ça, Nathalie ?
Oui, bonjour. C'est en effet un musée qui va se déplacer à partir d'aujourd'hui. On le présente ici à Paris, mais il a plutôt mission à aller dans les villages, dans les banlieues, pour présenter l'art contemporain.
J'imagine qu'un camion comme ça qui arrive sur une place de village, ça fait quelque chose.
Oui, c'est un vrai événement. C'est un peu comme un petit cirque. Et en fait, le camion s'expande, il s'ouvre et en même temps, il déploie ses ailes. Et à l'intérieur de ses ailes, en fait, on a déjà de quoi faire de la convivialité avant de rentrer et de découvrir l'art contemporain. Donc le principe, c'est ça. Et puis aussi de faire, à l'intérieur, quelque chose de chaud. Il y a du bois. C'est un petit cabinet de curiosité pour présenter des œuvres de façon un peu intimiste.
Donc ça, dans l'espace public, donc ça veut dire que vous allez vers le public et ce n'est pas l'art contemporain. C'est effrayant toujours un peu.
Le principe du MUMO, c'est aussi d'aller chercher dans les collections nationales des fracs en fait, qui sont dans les régions. Et de sortir toutes ces œuvres et de les montrer et d'aller les adresser en fait dans les villages et dans les banlieues.
Alors aujourd'hui là dans le MUMO, au moment où on parle, quelles sont les œuvres ? Qu'est-ce qu'on peut découvrir ?
Alors il y a toute une expo qui a été organisée par le FRAC en fait d'Île-de-France qui s'appelle Esti, qui est en fait un cadavre Esti. c'est entre deux, entre plusieurs fracs, et chacun a proposé une œuvre, puis l'autre a réagi, et voilà, c'est en fait une façon de fonctionner, mais chaque expo sera différente en fonction de la région, en fait.
C'est des objets, des tableaux, c'est quoi ?
Alors, ce sont plutôt des tableaux qui sont mis, en fait, de part et d'autre. Oui. Il y a un peu comme des pinces qui viennent tenir, en fait, des petites boîtes en bois qui tiennent, en fait, les objets de façon à ce qu'on puisse les transporter. Et au milieu, on a comme un établi avec plein de rangements. Et on vient un peu poser des volumes, en fait, des sculptures, des objets en trois dimensions.
Très bien. Est-ce qu'avec les enfants, vous allez continuer ce thème, cette thématique de cadavres exquis en les faisant un peu travailler ?
Alors, il y a toute une équipe de médiation. Moi, je ne suis pas en charge de la médiation, mais vous pouvez interroger les médiatrices qui sont là présentes. Et j'ai oublié de dire aussi qu'il y a un deuxième espace dans le fond du camion, qui est un espace qui est là où on va faire plutôt des installations. Aujourd'hui, on va montrer une projection avec des assises informelles. Et que ces projections peuvent être aussi visibles de l'extérieur, parce qu'on a une grande fenêtre, on peut rétroprojeter, et donc on peut faire aussi des présentations de films d'artistes à l'extérieur du camion.
Et comment vous vous annoncez dans les villes ? C'est comme le cirque, ce soir, dans votre ville, le MUMO, non ?
Non, c'est tout programmé, puisqu'en fait, bien sûr, il y a en fait un partenariat avec des lieux, des écoles, mais pas simplement.
Comme un bibliobus, là, à l'époque, oui.
Voilà, tout à fait.
Donc, je veux faire la trompette.
On volait les livres.
Je veux faire une trompette pour arriver dans les villes.
Voilà, donc c'est programmé, c'est annoncé et c'est surtout ancré. Hein. C'est pas l'idée d'arriver à l'improviste.
Oui, absolument, mais je pense qu'il y a...
Rachel Kahn qui arrive, mais d'où venez-vous ?
Mais
oui, mais qui êtes-vous ?
Mais de l'odeur.
Quelle apparition !
Mais oui, en réalité, en fait, c'était une expérience qui avait été menée au Brésil pour permettre aux enfants d'avoir accès à la culture. Ce qui est intéressant dans ce genre de mobilisation, c'est à la fois de permettre d'aller au plus près, en fait, de ceux qui vont voir les œuvres, mais de permettre aussi à la création d'être vue. Hyper intéressant.
Vous vous entendez, madame ?
Oui.
Ça vous laisse sans voix.
La particularité, on va d'ailleurs demander à Ingrid, qui a l'initiative du projet, de s'exprimer.
Alors, il y a Ingrid qui arrive. Il faut que vous lui donniez le casque.
Voilà, en quelques secondes. Et puis, vous allez nous dire où.
Un superbe manteau. Je vous décris le manteau d'Ingrid, d'accord, qui est quand même magnifique. Avec un âne sur une barque.
Ah, oui, normal.
Pas du tout. En fait, c'est un manteau qui a été fait en collaboration avec...
Ne nous engueulez pas.
Et sont des œuvres d'art, oui, dans l'esprit du jour.
Oui.
N'empêche que c'est quand même un âne sur une barque.
Oui. Pour faire...
Écoutez, ne vous engueulez pas. Donnez-nous peut-être quelques informations sur le MUMO. C'est à Paris. Et bientôt où, alors ?
Alors, en fait, on va partir en itinérance en banlieue. Donc, on va commencer par Clairefontaine. Et on va faire toute une itinérance en Île-de-France et ensuite en Basse et Haute-Normandie.
Très bien, merci beaucoup, merci à toutes les deux, merci Jack et merci Nathalie Crasset. Voilà, il y a beaucoup de voiles l'art contemporain sur...
Beaucoup de merci.
Et beaucoup de merci aussi, mais il en faut.
Et actuellement, Place de la République, donc.
Et actuellement, Place de la République à Paris.
À tout à l'heure.
Va plus près de toi.
7h, 9h, Edouard Baird.
Je passe une matinée, mon Dieu.
Camarade, je suis prêt à me lever à...
Sur Radio Nova, on écoutait Sex Machine, traduit par Les Éponges, pour accueillir Thomas Ribby. Sex Machine, c'est pas mal ?
Bah ouais, merci. Ouais, c'est
vraiment... Vous connaissiez Les Éponges, d'ailleurs ?
Bah, je connaissais Les Éponges. Ouais,
journaliste,
ouais.
Alors, et mannequin.
En français, c'est lève-toi, monte dessus, donc c'est moins flatteur. Mais...
C'est un mannequin journaliste.
Mannequin journaliste.
Non, mais c'est quoi ce groupe ? Moi, je connaissais pas.
Bah écoutez, j'ai formé ce groupe en
1990. Ils avaient repris des trucs de Michael Jackson. Bad, Je suis mauvais, ils avaient tout traduit. Au Thriller, ils disaient film policier.
Thomas Ribby, chronique internationale dans Plus près de toi.
Eh bien, bonjour à tous déjà.
Bonjour.
Et aujourd'hui, dans cette fameuse chronique internationale, je voudrais vous parler d'un pays européen où l'extrême droite a pris le pouvoir. Un pays où un président d'extrême droite a été élu, puis une assemblée d'extrême droite, ce qui a permis à une première ministre d'extrême droite d'être nommée. Rassurez-vous, nous sommes bien le 27 avril 2017. Le deuxième tour de la présidentielle n'a pas encore eu lieu et donc il ne s'agit pas de la France, mais de la Pologne. Mais bon... Vu que c'est quelque chose qui pourrait arriver chez nous, je vais vous raconter comment ça se passe pour de vrai quand l'extrême droite arrive au pouvoir. En Pologne, c'est ce qui est arrivé avec le parti Droit et Justice. En polonais, on dit le PiS, P-I-S, un joli nom en plus. Alors attention, les membres du PiS hurleront s'ils m'entendent dire qu'ils sont d'extrême droite. Ils se définissent comme des conservateurs nationalistes. Mais bon, ils détestent les migrants car ils apportent, je cite, des maladies. Ils sont opposés à l'avortement, même en cas de viol. Ils détestent l'Europe, ils ont peur des musulmans, ils veulent repoloniser... C'est leur terme, certaines grandes entreprises et les terres du pays. Bref, le PiS est d'extrême droite. Il est arrivé au pouvoir en octobre 2015. Alors pendant la campagne électorale, il promet de protéger le pays contre les étrangers, mais il drague également les populations les plus modestes en proposant par exemple de baisser l'âge de la retraite ou d'augmenter les allocations familiales. 19% des inscrits seulement votent pour ce parti, mais grâce à un très fort taux d'abstention, plus de la moitié des inscrits, le parti obtient la majorité absolue au Parlement, et voici ce qu'il fait dans la foulée. La nuit suivant le vote de confiance du gouvernement, en novembre 2015, les deux chefs des services de sécurité intérieure sont renvoyés et remplacés par des proches du parti au pouvoir. La même nuit, le PiS annonce une réforme pour, je cite, « repoloniser la presse locale qui serait, selon le gouvernement, aux mains de puissances étrangères ». Un mois plus tard, il réforme le Conseil constitutionnel et nomme 5 nouveaux hauts magistrats proches du pouvoir. L'idée est d'empêcher toute contestation des lois à venir. Encore un mois plus tard, après avoir attaqué la justice, le PiS s'en prend aux médias qu'il accuse d'être partisans et de, je cite encore, « critiquer constamment et injustement le nouveau pouvoir ». Tous les directeurs d'antenne des télévisions et radios publiques sont envoyés, et là aussi remplacés par des proches du parti au pouvoir. Il y a aussi beaucoup de journalistes de ces médias publics qui sont envoyés. Et ça continue. Après les médias publics, le PiS s'en prend aux médias privés. Le gouvernement oblige les entreprises en partie publiques à ne plus acheter de publicité dans les journaux d'opposition. Résultat, des énormes manques à gagner, et là encore, des centaines de journalistes virés. Alors au bout d'un moment, forcément, la population polonaise a commencé à protester. D'immenses manifestations ont été organisées. D'abord pour lutter contre le projet d'interdiction totale de l'avortement qui va finalement être abandonné suite à ces manifestations. Puis contre le muselage des journaux d'opposition. Alors le PiS, face à la rue qui gronde, a trouvé une solution. Le mois dernier, en mars, il a fait passer une nouvelle loi limitant le droit de manifester. Nouveau scandale dans l'opposition. Mais l'opposition à force a de moins en moins de moyens de s'exprimer. Alors juste quelques jours avant l'annonce de cette nouvelle loi qui limite le droit à manifester, Marine Le Pen a répondu à une interview de médias étrangers à Paris. Et à cette occasion, elle a déclaré qu'elle partageait un certain nombre de, je cite encore une fois, « grandes idées » avec le PiS, notamment le rejet de l'ingérence de l'Union européenne. Le président du PiS, qui s'appelle M. Kaczynski, a été interrogé à Varsovie dans la foulée en Pologne. On lui a demandé si lui-même se sentait proche de Marine Le Pen. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les membres du PiS ne veulent surtout pas qu'on leur dise qu'ils sont d'extrême droite. Alors Kaczynski répond « nous n'avons rien à voir avec Mme Le Pen ». C'est sans doute l'une des morales de cette histoire. Alors qu'ici, certains semblent accepter l'idée de laisser le Front National arriver au pouvoir, eh bien même chez l'extrême droite polonaise, on juge Marine Le Pen infréquentable.
Merci Thomas Ryby. On aura compris cette histoire et ce calendrier.
Plus de 40 pistes dans son discours, j'ai adoré.
Oui, ouais. Et puis les questions justement liées à la justice et aux médias. On en avait entendu parler ici quand Nicolas Bay du Front National était venu dans l'élément de langage sur Nova. Les deux axes vraiment très forts justement sur lesquels ils agiraient en cas de prise du pouvoir. Je retiens cette phrase-là, Thomas Ryby, dans ce que vous venez de nous raconter. Le PiS avait recueilli seulement 19% des inscrits qui avaient voté pour eux. Et grâce à un très fort taux d'abstention, le parti avait obtenu quand même la majorité au Parlement. Merci.
Avec plaisir.
De cette chronique.
7h-9h, plus près de toi. 7h-9h, Édouard Baer.
Plus près de toi.
Plus près de toi. Une émission extrêmement racoleuse.
J'arrive un peu en retard, pardon. Je crois que ça se termine. C'est Édouard, bonjour. J'ai été dehors, j'ai tâté le pouls, j'ai tâté le terrain, j'ai traversé ces ambiances d'entre deux tours, comme ça, cette campagne étrange. Voici venu le temps. La colère, la haine, les anathèmes. Et puis défilent sur Internet les tweets, les trolls, les comments, les menaces, les salcons. Comme base de toute conversation, se dire qu'on a déjà raison. La toile et ses toutes petites joies, le courage de l'anonymat. Et on salue d'un même crachat le retour de la bête immonde et ceux qui dînent à la Joconde. Des temps, des époques. Le second tour sera dans la rue, tu dis, t'es sûr ? Le goût du sang, le goût des coups. Il y a des salles de boxe pour ça, non ? Et puis quoi ? Tu veux mettre face à face, classe contre classe. Ceux qui prennent le premier avion contre ceux du dernier métro, les sans-dents contre ceux qui en auraient trop. Et puis les mêmes marionnettes qu'on agite, les patrons, le fric, les flics. Mais quand un flic crève et qu'il ne ressemble pas exactement à ce que les cons voudraient qu'il soit, alors là, ça glace. Là, on ne sait plus, on n'a plus les repères. Il était beau le discours du mec, hein ? Il était beau le discours de son mec. La tristesse sans colère et la reconstruction. La reconstruction. On rêve de révolution comme on rêverait d'Amérique. Mais l'Amérique, c'est fini. Noyé dans Johnny Depp et ses folies. Les Kardashians et leurs conneries. Et le grand blond, là, comment il s'appelle déjà le grand blond, non ? C'est pas si mal ici. Tu sais, on n'habite pas tous le même endroit d'ici, mais c'est pas si mal ici. Bien sûr, faut changer, faut transformer, faut avancer. On ne jette pas le bébé avec l'eau du bain, comme on dit dans les campagnes. C'est pas si mal ici. Allez, merci, salut, belle journée, pardon d'être en retard, on est en retard, mais on est en avance pour autre chose. Salut, salut, merci à tous d'avoir tenu l'antenne, au plaisir de vous retrouver lundi. 1er mai, chez vous, mais à l'antenne mardi 2. Salut, salut.
Salut.